Alors, mon message, donc ce matin, porte évidemment sur l'autorité. De quelle autorité? Bien sûr, de Dieu, de Christ en particulier. Alors, qui n'a jamais fait preuve d'autorité parmi nous? Chacun à son niveau a déjà exercé l'autorité ou continue d'exercer une certaine autorité. Dans nos sociétés, l'autorité s'exerce à différentes échelles. Non pas le président de la République dans la salle, mais c'est valable évidemment pour un chef d'État, un gendarme, des chefs d'entreprise, on en a connu dans l'église, un professeur, on en a connu dans l'église, des enseignants, ou un parent. Et voyez-vous, l'autorité est donc absolument nécessaire. Une autorité ferme mais juste est nécessaire. Pourquoi? C'est pour la bonne marche de tout groupe humain. Et comme on l'a vu tout à l'heure, à différentes échelles, un pays, une entreprise, une famille, une association, etc. Il y a un mais, notamment pour certains citoyens, qu'ils soient employés d'une entreprise, par exemple, étudiants, enfants ou préados, ados, et pour tout délinquant ou criminel, l'autorité est quelque chose de détestable. Avez-vous entendu parler du phénomène des teen takeovers? Oui? Non? Donc voilà un phénomène qui se développe en 2026 de plus en plus. C'est quoi ce phénomène? C'est ce qu'on appelle la prise de contrôle par les ados. Ce sont des regroupements improvisés d'ados par les réseaux sociaux. Ils s'envoient donc des textos. Rendez-vous à tel lieu. C'est un phénomène qui vient des États-Unis. Vous avez sans doute entendu parler aux infos. Ils se réunissent des centaines, peuvent atteindre le millier. Donc le message est envoyé, on va dire, en l'espace de quelques temps, pour ne pas alerter les autorités. Ils se retrouvent soudainement, quelque part. Et évidemment, ça dégénère. Il y a des rixes. Il y a de nombreux dérapages, parfois des fusillades. Et donc, c'est un danger aujourd'hui pour la société américaine. Donc, ça s'appelle les teen takeovers ou alors les mall takeovers. Donc, ils vont se retrouver dans les malls, donc dans des centres commerciaux gigantesques. Et puis, ben, ça dérape. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui est en cause? C'est le refus de l'autorité. Et ça vient aussi dans nos pays. On le voit, ces débordements de violence. Toujours la même cause, le refus de l'autorité. D'une manière générale, ceux qui se rebellent On rejette la faute sur ceux qui détiennent l'autorité en les accusant de dictateurs, d'intolérants, de fascistes. Certes, parfois certains abusent de leur autorité en se montrant inutilement sévères, voire injustes, mais ce n'est pas toujours le cas. Nos premiers parents, Adam et Ève, se sont rebellés contre une autorité. Une autorité ferme, mais parfaitement juste et incroyablement bienveillante du Dieu créateur. Ainsi, leurs descendants que nous sommes se rebellent spontanément dès leur jeune âge et doivent apprendre, souvent en étant punis, à respecter et à obéir à ceux qui sont en autorité. Dès la Genèse, l'autorité de Dieu a été bafouée. Nos parents ont désobéi à l'autorité suprême. Nous l'avons chanté, majesté. Suprême autorité. Et ce matin, nous allons voir ce qu'il en est de l'autorité. Mais l'autorité de Dieu. Mais avant, qu'est-ce qu'on entend par l'autorité? Alors je regardais un peu, j'ai trouvé une définition du Larousse qui dit ceci de l'autorité. C'est le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Voilà ce que le Larousse dit de l'autorité. Décider, commander, d'imposer ses volontés à autrui. Pas facile, hein, n'est-ce pas? Quand on est enclin à une expression débordante de liberté, donc vous voyez, imposer, ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel, je dirais. Nous verrons donc ce matin qu'en est-il de l'autorité de Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 1. Les versets 21 à 25, donc je vais les projeter, Nadine. Merci. Ouais. Marc, chapitre 1, versets 21 à 45. Merci, Nadine. C'est un beau texte, hein, de voir la vie de notre Seigneur. C'est écrit clairement et simplement. Nous avons un Seigneur merveilleux. Alors, nous allons examiner ensemble, ce matin, l'autorité de Jésus-Christ. Une exception sans égale. Il n'y a pas d'équivalent. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La première des caractéristiques de l'autorité du Seigneur, c'est que, en réalité, le Seigneur avait une autorité sur ses enseignements. Une autorité de ses enseignements. Et nous l'avons vu, c'est dans les versets 21 à 22 et également le verset 27 qui en parle. Une autorité sur la parole qui ne laissait personne indifférent. Verset 22, ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle doctrine. Tous étaient frappés. Et donc, une autorité de ses enseignements. Puisqu'il est question des scribes, comment ces scribes enseignaient ? Quel était l'enseignement des scribes dans les synagogues ? C'est le sabbat. Les juifs se retrouvaient dans les synagogues pour recevoir aussi de l'enseignement. Et ceux qui étaient dépositaires de l'écriture, ben, ils étaient là, donc c'était les scribes. Et donc, ils enseignaient. Comment ? Ben, en spéculant sur des avis parfois contradictoires d'autres autorités, en l'occurrence, l'autorité des rabbins. Ah oui, mais moi je pense, comme tel rabbin, par rapport à tel texte de la loi, je suis de l'avis du rabbin un tel. Et un autre scribe, ah oui, mais par rapport à ce texte de loi, je pense que je suis d'accord avec le rabbin Y. Donc voyez-vous, voici comment l'enseignement était conduit dans les synagogues. Et là, on voit clairement que le Seigneur, il change totalement de paradigme. Qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle doctrine. Non, le Seigneur a autorité de ses enseignements. Il parle avec autorité. Ce ne sont pas des présupposés. C'est pas, je pense que, non, un changement total de paradigme. Bien sûr, dans ce contexte, on peut comprendre que le juif ordinaire avait le sentiment, l'impression qu'il n'a aucune chance de comprendre la parole de Dieu. Et oui, chacun a son avis. La parole ne fait pas autorité. Mais le Seigneur est arrivé. Oui, semble-t-il, c'est une nouvelle doctrine. Il parle avec autorité, sans équivoque, sans ambiguïté. Comment Jésus enseigne-t-il ? Comme ayant autorité, étant lui-même l'autorité suprême et incontestable en ce qui concerne l'interprétation de la parole de Dieu. Lui-même sa parole. N'est-ce pas merveilleux ? Dieu au milieu de son peuple. Un changement radical de paradigme. Une parole avec autorité. Oui, c'était jamais arrivé en Israël. Il n'hésite pas à déclarer « Vous avez entendu que cela a été dit, mais moi, je vous dis. » Matthieu 5, versets 21 à 22. Oui, cela a été dit, mais moi, je vous dis. Extraordinaire. L'autorité du Seigneur. Il ne propose pas une opinion humaine, mais il proclame la vérité divine, allant jusqu'à affirmer, cherchez pas, en Marc 13, 31, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quelle autorité! Comment? Le ciel et la terre passeront? Impensable pour les Juifs. Mais il l'a dit. Mais mes paroles ne passeront jamais. Ça vous rappelle le premier verset de Jean? Au commencement était la parole. Eh bien oui, la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle a été faite chair au milieu de nous, pleine de grâce. Oui, la parole a toujours été. Elle a existé au commencement. Nous avons un cantique. Par sa parole, tout a été créé. N'est-ce pas? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Je suis. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Et il explique justement pourquoi. Et on le voit dans l'évangile de Jean au chapitre 12 au verset 49. Le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je dois enseigner. Voilà la raison. Voyez-vous donc les paroles de Jésus étant les paroles de Dieu, faisons-leur et faisons-lui entièrement confiance. Malheureusement, tous ceux frappés par l'autorité de Jésus n'acceptent pas pour autant tous ses enseignements. Le deuxième aspect que nous allons aborder, c'est l'autorité de Jésus-Christ sur le monde invisible, en particulier au niveau des exorcismes. Il a autorité sur le monde de l'invisible, comme on l'a lu tout à l'heure. Que sont les démons? Ce sont des anges qui ont suivi Satan dans sa révolte contre Dieu. C'est si on le voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, précisément. Et il fut, parlant de Satan, précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà ce qu'il en est donc des démons. Les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu justement les détruire ainsi que leur maître. Le diable, Satan. Verset 24, c'est ce qu'on a vu. Lorsque Jésus chasse le démon hors de l'homme, les gens réagissent avec stupéfaction. Pourquoi? On l'a vu, verset 27. Stupéfait de voir comment Jésus chasse le démon qui habitait un homme. Tous stupéfaits. Pourquoi? Justement, parce que les exorcistes juifs, pour chasser des démons, pour la plupart, étaient dans un échec lamentable. Et on le voit dans le livre des Actes. En Actes 19, 16, voilà un récit qui illustre ce cuisant échec des exorcistes juifs. Voilà une illustration, Julie, acte 19, 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, s'agissant évidemment des juifs, hein, des exorcistes juifs, il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà pourquoi la foule était stupéfaite. Comment il arrive ainsi à chasser un démon qui habite un homme? Et rien ne lui arrive. Stupéfaction totale dans la synagogue. Mais le Seigneur se contente d'un simple ordre et ils obéissent promptement. Un simple ordre. Il commande aux démons de sortir. Versets 25 à 26. Et alors, tout en protestant, le démon sort immédiatement. Il interdit aux démons de dire qui il est. Verset 25, aussi verset 34. Et alors, qu'en est-il? Les démons se taisent tout simplement. Silence. Ils se taisent. Hélas, tous ceux frappés par l'autorité des exorcismes de Jésus n'y voient pas la puissance de Dieu. Contre toute logique, certains prétendent même que Jésus chasse les démons par la puissance de Satan. Et ça, on le voit dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 22, qui clairement nous le rappelle. Les Juifs pensent que si Jésus a ce pouvoir, c'est parce qu'il est un instrument de Satan. On voit l'incrédulité du cœur de l'homme, au-delà de toutes ses prouesses, de tous ses actes prodigieux. La foule, du moins certains, sont restés encore incrédules. Voyons à présent un autre aspect de l'autorité de Christ. C'est son autorité sur la maladie. Avec le Seigneur, la guérison est instantanée, complète et définitive. Il n'y a pas de mesure. Instantanée, complète et définitive. L'exemple nous est donné ici avec la belle-mère de Pierre, en proie à une fièvre violente, mais elle se lève aussitôt et se met à servir le repas à tout le monde. Guérison instantanée, immédiate. Voilà la belle-mère de Pierre, qui retrouve promptement la plénitude de ses moyens. Elle est au service. Un lépreux atteint d'une maladie à la fois handicapante et incurable est guéri sur le champ. Rendez-vous compte. Instantanément. Guéri. Verset 42. Des malades de toutes sortes sont guéris. Ailleurs, il est question d'aveugles, de boiteux, de paralytiques en Matthieu 2, 12. Vous connaissez un peu l'histoire. Ces paralytiques avec lesquels il a fallu découvrir le toit d'une maison pour le faire descendre. Quelle preuve de foi pour que cet homme soit guéri. Et il faut aussi rajouter que le Seigneur ne redoute pas la vérification de la réalité d'une guérison par l'autorité compétente, car il la sait vraie. Verset 44. Quelle assurance. Pas le moindre doute. Je guéris certainement. Et promptement. Le fait que Jésus-Christ accomplit des miracles parfaitement vérifiables constitue donc une raison suffisante de croire. Mais hélas, dans la foule, tous n'ont pas cru. Tous n'ont pas cru. Un autre élément de l'autorité du Christ, c'est évidemment que Christ a autorité sur toute vie, absolument toute vie, y compris la sienne. Qui d'autre a pu manifester une telle autorité? Toute vie, y compris sa propre vie. J'ai relevé quelques exemples. L'exemple du figuier, tout le monde s'en souvient, en est une illustration de la puissance de Jésus-Christ. En Marc 11, verset 14, que jamais personne ne mange de ton fruit. Quelle autorité! Et en effet, à son retour avec les disciples, tiens, les disciples ont remarqué, Seigneur, pourquoi le figuier s'est-il asséché? Autorité sur toute vie. Souvenons-nous de la résurrection de Lazare, de la fille de Jaïrus, sans revenir à la vie. Mais Seigneur, ça fait 3 jours que Lazare est enterré. Il doit être complètement décomposé. Non. Lazare est revenu à la vie. Quel prodige. Quelle autorité sur la vie. Parlant de lui-même, le Seigneur dit, en Jean 10, versets 17 à 19, le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Extraordinaire dessein. Celui qui donne sa vie, qui la reprend. Jésus-Christ, c'est Dieu, incarné. Quelle autorité sur la vie. Une autre autorité, que je voudrais aborder avec vous. C'est que l'autorité de Jésus-Christ est soumise à l'autorité du Père. Une autorité soumise à celle du Père. Comme on l'a vu dans les versets 35 à 39. Après s'être couché, tard, Jésus se lève de bonne heure. Pourquoi ? Afin de prier dans un lieu isolé. Pourquoi la prière ? On s'en doute un peu. Il n'est pas venu pour accomplir sa propre volonté, mais pour accomplir la volonté de son Père. Aussi ne fait-il rien de sa propre initiative. C'est aussi notre devoir de prier inlassablement. Prions et demandons au Père que ta volonté se fasse. Quelle est ta volonté en ce jour qui s'éveille? C'est le lien, c'est la communion que nous devons chaque jour maintenir avec l'Éternel, la prière. Et c'est ce que fait Jésus. En Jean 5, 19, nous lisons, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà pourquoi il se met aussi en prière. Il prie le Père. Christ prie, sans doute, pour demander la voie à suivre. Sa mission première, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Christ n'est pas venu pour guérir, tout simplement. Certes, dans la foule, il y avait du monde. À Capernaum, il y avait beaucoup de malades. Mais ce n'était pas sa mission première. Ce n'était pas sa vocation première. En verset 38, il le dit lui-même, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il était en prière. C'est pour cela aussi que je suis sorti. J'ai noté que les miracles de Jésus appuient certes son message, mais ils sont moins importants que son message. D'ailleurs, un miracle peut tuer son message en l'empêchant de l'annoncer comme on l'a lu. Souvenons-nous, verset 45, lorsqu'il a guéri cet homme. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Vous voyez ? La guérison tue le message. Et ce n'était pas l'objet principal de la venue du Seigneur. Le salut, annoncer l'évangile. Cela conforte l'idée que ce n'est pas forcément tous ceux qui ont été guéris qui ont été sauvés. On a vu les gens qui étaient guéris et qui n'ont pas adoré le Seigneur. Donc voyez-vous, C'était prodigieux, mais ce n'était pas la mission première du Seigneur. Par ailleurs, vous le savez, Christ a manifesté de l'autorité sur les intempéries. Souvenons-nous quand il était dans la barque avec les apôtres. Qui est-ce que c'est? Qui c'est qui commande même au vent? Et il fait silence. Quelle autorité! Même les intempéries étaient soumises à sa puissance. J'ai noté qu'au-delà des prodiges du Christ, on peut s'interroger. Pourquoi n'ont-ils pas cru? Du moins, tous. Bien sûr, certains ont cru. Pourquoi tous n'ont pas cru à la parole de Dieu? J'aborde donc le dernier point de l'autorité du Seigneur, en ce sens qu'il s'agit là d'une autorité dont seuls les vrais disciples s'y soumettent. Nous avons vu l'ordre public. Il y a des jeunes qui ne s'y soumettent pas. Pourtant, il y en a qui s'y soumettent. C'est un peu le parallèle. Mais l'autorité de Christ, seuls les vrais disciples s'y soumettent. Et on verra comment. À quoi donc reconnaît-on un vrai disciple de Christ? Premièrement, il croit. Sa réserve à tout l'enseignement de Jésus. Christ, seul Seigneur et Sauveur, est le centre de la foi chrétienne. Croire sans avoir vu, croire que Christ est mort pour nos péchés, ressuscité, assis à la droite du Père, qu'il intercède pour nous, qu'il reviendra. Croire tout simplement. Le vrai disciple croit en Christ. Et donc, s'y soumet à sa parole. Deuxièmement, s'il ne suffit pas de croire, le vrai disciple, il obéit aux instructions de Jésus, quoi qu'il en coûte, même quand elle lui coûte. Il obéit aux instructions de Christ. Ça, c'est une des marques du vrai disciple. En Marc 1, 15, il disait, parlant du Seigneur, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Ça commence par la repentance. Le vrai disciple est dans la repentance. Il se repent de ses iniquités. Ensuite, en Marc 1, 17-18, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Il se repent, le vrai disciple, et il suit son Seigneur. Comme il l'a dit ici, « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Qu'en est-il advenu de ses disciples? Pierre? André? Jean? Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ils n'ont pas réfléchi. Ah non, mais je suis en train de tirer un gros poisson. Attends que je finisse de pêcher. Ou alors, attends que j'aille dire au revoir à mes parents. Et j'arrive. Non. Promptement. Ils ont tout abandonné. Vous aurez observé, même leur métier, ils étaient pêcheurs. Même leur métier, ils ont abandonné pour suivre le maître. Voilà une des particularités du vrai disciple de Jésus-Christ. Suis-moi. Hélas, beaucoup de croyants ne sont pas de véritables disciples, faute d'obéissance. L'obéissance est fondamentale. L'obéissance à Christ. Justement, le Seigneur le compare à un insensé qui bâtit sa maison sur le sable et non sur le roc. Un homme insensé. Troisième spécificité du vrai disciple de Christ, il suit l'exemple du maître, quitte à être lui-même persécuté comme Christ. Christ a montré le chemin. Le vrai disciple est un imitateur du maître. Paul disait, soyez mes imitateurs, comme lui-même est imitateur de Christ. Certes, Jésus étant parfait et chargé d'une mission unique, aucun disciple ne peut lui ressembler totalement. Nous en sommes conscients. Pour autant, Pierre nous enseigne ceci, donc il dit que Jésus vous a laissé un exemple afin que vous suivez ses traces. Voilà, il nous a laissé un exemple, qu'on suive cette trace. Dans la méditation que nous avons faite tout à l'heure, c'est la tentation de Jésus-Christ. Voilà un exemple. Résister à la tentation comme Christ lui-même a été tenté. Voilà un exemple. Le Seigneur le sait pertinemment. Vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Nous n'avons pas la mission de Christ. Mais il nous y invite lui-même à lui ressembler. Et voilà ce qu'il dit. En Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. N'est-ce pas? Que sert-il à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perdait son âme? Quelle perspective glorieuse nous avons! Louons Dieu de cette grâce, parce que c'est lui qui fait tomber les écailles de nos yeux, pour que nous puissions contempler ce salut si merveilleux. Le monde est perdu, sans repère, déboussolé, mais nous avons Jésus-Christ. Quelle grâce! Quelle grâce! Ce n'est pas de notre fait. Mais il nous a été fait la grâce de le connaître. soyons dans la reconnaissance. Jour et nuit, soyons reconnaissants de ce salut si merveilleux. J'ai noté que nous ne sommes pas sauvés en nous efforçant de suivre l'exemple de Jésus, mais en mettant notre foi en lui, c'est pas la même chose. Cependant, le vrai disciple s'efforce, avec l'aide de Dieu, de marcher comme il a marché. C'est ce qui nous est rapporté en 1 Jean 2, 6. Oui, avec l'aide de Dieu. Prenez sur vous mon joug. Fardeau, il est léger. Et ce joug, il est doux. C'est lui qui donne l'impulsion. C'est lui qui trace le sillon. C'est lui qui montre la voie. Par nos propres efforts, nous en sommes bien incapables. Nous avons besoin de la grâce, de l'aide de Dieu pour nous accompagner sur ces sentiers difficiles, rocailleux, raboteux, mais lui les aplanit pour nous conduire sur ce chemin de la justice. Pour conclure, quelques points de repère. Depuis le retour de Jésus-Christ enlevé aux cieux, son autorité n'a pas changé. Bien plus. Et nous verrons pourquoi. Il n'est pas au milieu de nous. Mais son autorité n'a pas changé. Mais encore. Il est assis à la droite de Dieu. Hébreux 1, verset 3. Il a reçu du Père toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est ce qui est rapporté par Matthieu au chapitre 28, verset 18. Oui, il a toute autorité donnée par le Père, que ce soit dans les cieux et sur la terre. On ne peut pas s'y tromper. Il a toute autorité, absolument toute autorité. Dès à présent, il contrôle souverainement le déroulement de l'histoire de l'humanité. Dieu souverain. Il est au contrôle des manettes. Rien ne lui échappe. Et ceci, vous pouvez le retrouver dans le livre de l'Apocalypse, en particulier, au chapitre 5, et au verset 5. Christ règne. Ça, c'est notre assurance. Le monde chancelle à vue d'œil, mais Christ règne. Et un jour, tout être reconnaîtra son autorité. Tout œil le verra. Tout être reconnaîtra son autorité. Philippiens 2, versets 9 à 11. Oui, quand on regarde le monde, où est Dieu? Toujours. Le monde s'interroge. Mais tout œil le verra. Le Seigneur vient bientôt. Il dit lui-même, tout pouvoir, en nos termes, toute autorité, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On l'a vu en Matthieu 28 et 18. Et aussi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle espérance. Amen.